Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Tout au long de la crise sanitaire, de nombreux Français se sont tournés vers les médecines dites complémentaires pour soigner ou tenter de prévenir le Covid-19. Des thérapies dites alternatives, une tendance lourde en France, des pratiques qui peuvent apporter un certain bien-être ou soulager en complément d'un traitement médical. Hélas, certains Français se tournent vers des pratiques qui peuvent se révéler dangereuses quand ils délaissent des médicaments contre une pathologie grave, au profit du crudivorisme, du jeûne hydrique ou encore du respirianisme. Alors comment distinguer le bon grain de l'ivraie au moment où de nombreux concitoyens doutent plus que jamais de la parole scientifique et médicale? Pourquoi ces thérapies dites complémentaires sont si difficiles à évaluer scientifiquement? Quelles sont les plus fiables pour accompagner certains troubles? Quelles sont les formations et les lois qui encadrent ces pratiques? Comment repérer un gourou du bien-être? Comment détecter les dérives sectaires? Éléments de réflexion et de débat ce matin. Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000 ou nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter, sans oublier la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse, une émission en partenariat avec le mensuel Ça m'intéresse. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Ok, on vide son sternum. Et on ouvre bien grand les chakras. Encore un dernier ion. Ion. Fini pour aujourd'hui. Bravo Steph, t'as complètement déstabilisé Charlotte. Elle a au moins 6 chakras de refermés.
Ça va, toi l'escroc, te mêle pas de ça, sinon je vais te les refermer, tes chakras, ça va être vite fait.
Et pour nous aider à y voir plus clair dans la jungle des médecines dites complémentaires, nous recevons le docteur Pierre de Brémond-Dars. Bonjour.
Bonjour Ali.
Vous êtes médecin généraliste en centre municipal de santé. Vous êtes membre du collectif FECMED. Expliquez-nous ce qu'est FECMED en quelques mots.
FECMED, c'est un collectif de médecins, de soignants et de citoyens qui s'est regroupé il y a maintenant 3 ans suite à une tribune signée par 124 puis 3000 professionnels de santé pour demander...
Dans le Figaro.
Dans le Figaro, tout à fait, dans le Figaro Santé, pour demander plus de clarté et le déremboursement de pratiques de soins non conventionnelles. Ça a fait un peu de buzz. En gros, on a pris des plaintes. On s'est fait attaquer par des syndicats d'homéopathes, donc on s'est formé en collectif pour, à la base, organiser notre défense. Et puis, comme on aimait bien travailler ensemble, on a continué à travailler ensemble sur d'autres sujets pour lutter contre la désinformation en santé. Donc, en s'opposant, en fait, depuis 2018, soit sur les réseaux sociaux, soit sur YouTube, soit dans notre quotidien, à de la désinformation en santé. Et on a vu avec la crise du Covid que c'était pas inutile.
Bonjour, docteur Adrien Chaboch.
Bonjour, Ali.
Vous êtes médecin généraliste à Paris et vous dirigez un centre de médecine intégrative. C'est quoi la médecine intégrative en quelques mots?
En quelques mots, c'est justement ce qui ne va pas être alternatif. C'est-à-dire que l'on va incorporer des pratiques qui peuvent être complémentaires, mais dans une cohérence, une rigueur scientifique et une cohérence, une organisation médicale.
Bonjour, Serge Guérin.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et vous êtes président de l'Agence des médecines complémentaires et alternatives. Quel est l'objet de cette agence? En quelques mots, on va y revenir tout à l'heure.
Globalement, pour aller très très vite, l'agence, elle est là, c'est une association qui est là pour réfléchir à ces enjeux. En fait, on est parti du principe tout bête que à peu près 44% des Français utilisent et qu'il s'agirait de regarder un petit peu ce qui se passe. Donc c'est à la fois de la réflexion avec des gens qui sont plutôt favorables, des gens qui sont parfaitement défavorables, des gens qui réfléchissent à tout ça. C'est une question de démocratisation. C'est aussi... comment on échange, comment on discute de tout cela, et puis c'est de l'évaluation, c'est de la réflexion avec des scientifiques, avec des chercheurs, autour de toutes ces problématiques.
Et vous publiez chez Michelon les 20 grandes questions pour comprendre l'homéopathie. Bonjour Christian Gravel.
Bonjour Ali Rébéi.
Vous êtes préfet, secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance, de la radicalisation et de la dérive sectaire, rattaché au ministère de l'Intérieur. En ce moment, vous êtes particulièrement attentif aux dérives liées aux thérapies dites alternatives et évidemment à leurs dérives sectaires.
Exactement. Déjà, merci pour votre invitation. Je précise peut-être en deux mots ce que c'est que la Miviludes aussi. La
Miviludes qui intègre...
et qui est au cœur du CPDR, qui a été rattaché depuis un an au ministère de l'Intérieur, sous l'impulsion de la ministre Marlène Schiappa. Après une période, on va le dire, un peu de flottement, depuis un an, on a renouvelé complètement les équipes. On a une magistrate, Hélène Romdan, qui est à la tête de l'équipe de conseillers, d'experts, qui connaissent parfaitement les sujets. On réactive, on redynamise, et je le dis notamment à nos auditeurs, puisque des milliers de familles en France sont concernées par ces phénomènes-là. souvent discrets, avec en plus derrière une problématique, c'est que la plupart des victimes n'ont pas conscience, par définition, puisqu'elles considèrent être dans le vrai, et d'autres ont honte d'admettre qu'elles ont été manipulées. Donc on y reviendra bien évidemment dans le courant de l'émission, mais c'est important de pouvoir ouvrir des portes et dire que la Miviludes, en tant qu'institution de l'État, coordonnant l'ensemble des politiques de prévention et de lutte contre ces dérives-là, sont à leur service.
Bonjour Caroline Penaud.
Bonjour Ali.
Vous êtes chef du service environnement mensuel Ça m'intéresse et vous consacrez un dossier à ces médecines dites alternatives. Que regroupe-t-on sous le vocable des médecines dites complémentaires ? La Haute Autorité de Santé parle de thérapie non médicamenteuse, l'Organisation Mondiale de la Santé évoque des médecines traditionnelles et certains chercheurs parle d'intervention non médicamenteuse. Aidez-nous à y voir plus clair.
Alors, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, il y a beaucoup de dénominations. On les appelle aussi parfois médecine douce ou naturelle, même si les médecins préfèrent effectivement souvent médecine complémentaire ou thérapie complémentaire. Si on regarde le total, il y en aura à peu près 400. Alors, il y a un peu tout n'importe quoi dedans. Il y a des choses qui sont reconnues, d'autres qui sont complètement fantaisistes, voire dangereuses. Le Sénat avait fait une liste de 115 thérapies en 2013. Et c'est vrai qu'on a à la fois des médecines traditionnelles, des médecines où il y a quand même des études avec des preuves sur leur efficacité. Donc c'est vrai qu'on a le meilleur qui côtoie le pire dans cette vaste nébuleuse.
Pierre de Brémond-Dars, pour vous, il y a la médecine et puis le reste.
Alors, la médecine,
pour être un peu caricatural.
Pour être un peu caricatural, la médecine, c'est une science qui veut maintenir, préserver ou améliorer l'état de santé des personnes. Donc il y a, tous les termes sont importants. Et le terme là dont on parle, c'est la science. Donc la science, ça veut dire une évaluation scientifique des choses. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Et c'est le rôle en France de la HAS notamment, de se prononcer sur l'intérêt des soins. Donc on a un soin qui peut être un soin de santé. Un soin, ça peut être un soin du corps, on se fait du bien. Et puis il y a des choses qui sont scientifiques, on a une preuve que ça fonctionne, qu'il y a plus qu'un effet placebo. Et donc c'est un peu le rôle du médecin d'avoir, et c'est déontologique, cet œil-là sur ce qui est de la science de la médecine et ce qui est du soin de la santé et de naviguer, d'aider le patient à naviguer là-dedans.
Docteur Chaboch.
Tout à fait, mais ça soulève une problématique qui est que la définition retenue par l'OMS de la santé, c'est un état de parfait bien-être physique, psychique, social qui ne se limite pas à l'absence d'infirmité, de maladie. Alors évidemment, ça pose en fait finalement deux choses. D'une part, il y a l'aspect médical, thérapeutique, et en France, on est régi par deux filières finalement, la filière médicale, dans le sens médical, paramédical, qui répond du ministère de la Santé, et la filière de la psychothérapie, de l'accompagnement sur le plan psychologique, les psychiatres sont un petit peu à cheval sur les deux, de la filière donc de la faculté de psychologie, mais qui n'est pas régie par le ministère de la Santé. On a un hiatus, alors ça c'est très franco-français, c'est pas pareil dans d'autres états, ça relève de notre organisation. Le problème étant qu'il y a des patients qui vont venir chercher un besoin d'un bien-être, comme effectivement vous l'avez précisé, et dans quelle case on se situe ? Où est-ce qu'on se situe et dans quel encadrement ? On ne va pas forcément aller voir un psychanalyste ou un psychologue formé à des thérapies si on veut faire du développement personnel, pas forcément. Et on ne va pas forcément aller voir effectivement un médecin s'il a besoin de bien-être, si la personne a besoin de bien-être, parce que le médecin, ce n'est pas en tout cas son rôle actuellement désigné. Mais ça nous pousse justement dans nos retranchements. Peut-être que notre niveau de santé en général est très disparate, certes, mais il y a en tout cas une demande de la population qui recherche quelque chose, comment l'encadrer et comment répondre donc à la définition de la santé de l'OMS.
Je suis d'accord, mais du coup, là, vous parlez de santé, et en effet, vous avez tout à fait raison, la santé, c'est plus que de la médecine. La santé, c'est aussi le fait de pouvoir aller au travail sans se prendre trop de pollution, sans respirer trop de pollution. C'est aussi le fait de pouvoir avoir accès à des aliments le moins transformés, le plus meilleur pour la santé possible. Et donc, il faut peut-être aussi démédicaliser la santé. Et le médecin, par contre, dans sa posture déontologique, a un rôle de conseil de son patient. Et dans ce rôle de conseil, doit respecter les données scientifiques. Et à ce niveau-là, on doit être irréprochable.
Et comment le former, ce médecin ? Parce que, pour le hasard des choses, nous sommes issus d'un même CHU, ça c'est le hasard des choses. On connaît bien la filière d'enseignement, notamment de l'acteur de premier recours, qui est le médecin généraliste, dans notre système de santé. Or, nous n'avons pas d'enseignement suffisamment appuyé, suffisamment clair et suffisamment désigné sur les pratiques complémentaires. Moi, ça va être mon terme, mais synonyme, intervention thérapeutique non médicamenteuse, ça c'est de la sémantique. Et comment on fait pour justement former ces professionnels de santé qui ont pour rôle d'encadrer, coordonner, diriger, conseiller nos patients.
Alors en mars 2018, vous le disiez, Pierre Brémond d'Ars, vous avez publié le collectif FECMED dans le Figaro avec 124 médecins, une tribune, vous dénonciez le manque de fondement scientifique de ces thérapies dites alternatives, vous y réclamiez des informations sur leurs effets délétères et leur efficacité réelle. Vous êtes partisan donc de la médecine basée sur la science, l'evidence-based medicine.
Oui, tout à fait. Voilà. Quand on prend une décision médicale avec un patient, on va se baser sur trois choses. Les données scientifiques, et donc ces données scientifiques, c'est la HAS qui les produit, et elle a été amenée notamment sur la haute autorité de santé. Voilà. Et c'est ce qu'elle a fait sur l'homéopathie, elle a constaté qu'il n'y avait pas plus d'effet que le placebo, ça a amené au déremboursement. Elle est tout à fait en mesure de le faire aussi sur les autres thérapies, et il y a des études sur l'hypnose, par exemple, qui sont assez encourageantes, d'autres sur d'autres techniques comme le jeûne ou autres, qui sont beaucoup moins encourageantes, et on peut se tenir au courant en étant à jour sur les recommandations, ce qui n'est pas facile, mais ce qui est possible. Et donc, pour prendre la décision médicale, trois choses, ces données scientifiques, la connaissance du médecin, donc, qui est de son expérience, et bien sûr, toujours, la volonté et la représentation du patient. C'est un triptyque.
Je vous propose d'écouter la professeure Laurence Verneuil dans Grand Main vous fasse en 2019 à propos de la médecine basée sur les preuves.
Pour se poser la question de l'intégrité et du sens des médecines complémentaires, l'enjeu, c'est leur évaluation. La recherche qualitative est strictement une approche scientifique au même titre que la médecine basée sur les preuves. Simplement, nous ne sommes pas dans le même paradigme. On change finalement le regard sur la réalité et au lieu de dire, comme dans l'EBM, l'evidence-based medicine, la médecine basée sur les preuves, au lieu de faire croire qu'on est dans une objectivité qui n'existe pas, la recherche qualitative assume la subjectivité et l'intersubjectivité. Et il y a une co-construction de la connaissance du savoir. Qu'est-ce que l'objectivité ? Enfin, un chercheur confronté même à des sciences fondamentales, devant un microscope, il a toujours son propre regard qu'il porte sur les choses.
Docteur Adrien Chaboch, votre réaction sur les propos du professeur Laurence Verneuil ?
Oui, une petite élément de précision et d'explicitation quand le professeur Verneuil parle de recherche qualitative. Qu'est-ce qu'on entend ? Parce que ça, c'est pédagogique, c'est très important de faire la distinction. Il y a la recherche quantitative et la recherche qualitative. Elles ne sont pas opposées, elles sont complémentaires, évidemment. La recherche qualitative, elle va s'intéresser effectivement à réaliser un certain nombre de méthodologies spécifiques qui vont relever par exemple de l'entretien avec un patient, de groupes d'études, ce qu'on appelle des focus groups. Et là, on va s'intéresser essentiellement non pas à des chiffres statistiques que l'on va démontrer avec des différences significatives qui relèvent de la méthode quantitative, mais par contre, on va avoir accès au contenu des pensées, au contenu des émotions, à l'intersubjectivité. Bon, ça, c'était pour un peu, parce que ça, je pense, c'est important pour nos auditeurs. Mais ce qui est important aussi, c'est d'entendre par là, je vais prendre un exemple très concret pour pas éviter de tourner en rond. On a fait une étude sur les effets du traitement de la prise en charge de la douleur avec l'hypnose, pour un exemple très simple, qui n'est pas une maladie, ce sont les femmes qui accouchent. Mmh. Bon, on a fait une étude quantitative, en comparant un bras de femmes qui vont accoucher avec une méthode habituelle et un bras avec des femmes qui accouchent méthode naturelle, enfin habituelle on va dire, plus la prise en charge de la douleur par l'hypnose. Ok. Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat ? L'évaluation de la douleur par un moyen quantitatif, c'est-à-dire une échelle d'évaluation de la douleur, une note entre 0 et 10, ok ? Dans le bras où il n'y avait pas d'hypnose, disent « Ah ben j'ai souffert à 8 sur 10 », vous m'en voudrez pas de l'imprécision, mais je vous rapporte le propos en général. Et dans l'autre bras, 8 sur 10. Ah, ben alors, pas de différence significative. Oui, mais ces patientes ont toutes dit, j'ai senti la douleur, c'est à 8 sur 10. En revanche, j'ai ressenti un bien-être, j'ai vécu mon accouchement différemment. Et tout un tas, évidemment, de conséquences. Donc, c'est là où on est dans une difficulté, c'est-à-dire que nos outils ne sont pas mauvais, absolument loin de là, mais peut-être incomplet, et on peut peut-être être en train de s'en rendre compte.
Caroline Penaud, de Ça m'intéresse, quels sont les obstacles à l'évaluation scientifique de ces médecines dites complémentaires ?
Mais en fait, la médecine fondée sur les preuves, on passe par des essais cliniques randomisés en double aveugle. Donc
ça veut dire qu'on prend deux groupes.
On forme deux groupes de patients à peu près équivalents, et un groupe va avoir le traitement, un groupe va avoir un traitement placebo, et ni le médecin ni le patient sait s'il prend le traitement. En gros. Et c'est vrai que sur des médecines manuelles comme l'ostéopathie, ça va être un peu compliqué d'avoir le même genre de méthode. Alors, les chercheurs ont trouvé des parades. Par exemple, pour l'acupuncture, on fait des études, on utilise des aiguilles rétractables ou bien on pique à côté pour voir si l'effet que va ressentir le patient, est-ce que c'est vraiment dû à l'aiguille sur le méridien ou autre chose. Donc, et comme ça, le praticien ne sait même pas aussi, non plus s'il utilise la fausse aiguille ou la vraie.
Pierre de Brémond-Dars.
Alors, et en effet, bon, les études en double aveugle, c'est une façon d'évaluer, il y en a plus, et je suis d'accord que la recherche qualitative et quantitative sont deux choses qui fonctionnent ensemble. Le qualitatif, c'est aussi EBM.
Evidence-based medicine.
C'est aussi evidence-based, pardon. Mais les protocoles, la seule chose qui est importante, c'est que les protocoles soient bien conçus. Un protocole où on compare la situation classique, si on compare du coup l'accouchement classique à l'accouchement plus quelque chose, on va forcément avoir une différence. La question qui s'est toujours, est-ce que le plus quelque chose, c'est juste le fait qu'il y ait une personne en plus qui accompagne, qui fait de l'hypnose, de la médiation, qui met dans un état de conscience, ou est-ce que c'est vraiment la chose qui est spécifique à l'hypnose? Et ça, c'est hyper intéressant, parce que le jour où on prouve que ça est utile, non seulement ça nous permet d'intervenir de façon beaucoup plus douce, de façon avec moins d'effets indésirables, mais ça nous permet aussi, du coup, déontologiquement, de le proposer aux patients de façon beaucoup plus large.
Alors, les médecines dites complémentaires sont une nébuleuse, d'un côté des pratiques fondées sur la science, qui bénéficient d'études cliniques, il y en a quelques-unes, vous les avez citées, l'hypnose, où il y a aussi la méditation de pleine conscience pour certaines affections, et puis il y a des pratiques plus ou moins farfelues, voire dangereuses. C'est au sein de ces pratiques que l'on retrouve le plus grand risque de dérive, Christian Gravel.
Oui, je vous confirme que effectivement, on a une activité extrêmement, extrêmement dense à la Miviludes depuis un certain nombre d'années, avec des sollicitations qui relèvent essentiellement de ce domaine-là, liées à la thématique de la santé et du bien-être, ce qui est normal. La société va pas très bien, et on peut imaginer quel a été l'effet démultiplicateur provoqué par la crise sanitaire, le climat anxiogène que cela a suscité, les conséquences sociales, psychologique, psychique aussi pour beaucoup de nos concitoyens. Et donc, une croissance quasi exponentielle des saisines dont on a fait l'objet sur cette thématique-là. Donc il y a une réalité, nous, il ne revient pas la Miviludes de nous exprimer, ça va de soi, nous ne sommes pas une autorité sanitaire, sur le bien fondé ou la distinction entre des médecines complémentaires alternatives fiables ou pas, même si on pense que, évidemment, par un constat objectif aussi, ce qui nous remonte qu'un certain nombre d'entre elles, ça a été rappelé par le docteur, que certaines sont objectivement efficaces, peuvent apporter du bien-être, au moins déjà ça. Mais je veux pas rentrer dans le débat, j'ai aucune légitimité pour ça.
Mais c'est vrai qu'on ne peut pas mettre sur le même plan l'hypnose médicale, la méditation de pleine conscience.
Avec l'urinothérapie.
Avec l'urinothérapie, voilà.
Et c'est malheureusement pas une plaisanterie. On peut laisser imaginer à nos auditeurs, sans rentrer dans le détail, en quoi consiste cette pseudo-thérapie. Au-delà du clin d'œil, il faut quand même rappeler que tout ce qui relève du rejet, de l'exploitation de techniques en rapport avec la médecine, est inscrit dans l'histoire des dérives sectaires, des mouvements sectaires. Je rappelle, petit rappel historique, que dans les années 80, un pseudo-médecin homéopathe avait recruté un certain nombre d'adeptes en faisant des réunions, des rencontres sur les questions du bien-être, de la santé et de l'écologie. Et on a retrouvé 16 de ces adeptes morts carbonisés dans le Vercors en 95. C'était l'ordre du Temple solaire.
Eh oui.
Au-delà de ça, il n'y a pas besoin de revenir sur cet exemple qui a marqué tous les esprits. Il est évident que pour tous les entrepreneurs malhonnêtes, manipulateurs, qui sont des professionnels de l'emprise mentale, s'adresser à des malades ou des personnes qui sont en recherche de solutions constitue évidemment pour eux un vivier considérable. Avec derrière, soyons clairs, des enjeux qu'on retrouve qui caractérisent la dérive sectaire, enjeux de pouvoir, de mainmise sur des individus.
D'argent.
On est vraiment sur l'emprise mentale, évidemment d'argent, et bien trop souvent aussi à caractère sexuel.
Serge Guérin, pourquoi avez-vous cofondé l'Agence des médecines complémentaires alternatives? Vous ambitionnez, hein, c'est clair, de devenir une agence gouvernementale. Expliquez-nous en quelques mots.
Ah ben,
pour tout le débat qu'il y a ici. Quand on a créé cela, alors il y avait Véronique Suissa qui est la directrice générale de cette agence, qui est une psychologue clinicienne, qui a fait une thèse justement. C'était intéressant d'ailleurs en vous écoutant parce que elle travaillait dans un SSR, dans une clinique, et puis les gens qui venaient vers elle donc étaient en très très grande difficulté et tout, et elle pensait qu'on allait lui demander du soutien psychologique, et bing, les gens en fait voulaient lui demander du yoga et ainsi de suite, et elle ne connaissait pas nécessairement. Et donc elle s'est dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi il y a autant de demandes, et donc comment les gens évoluent avec ça. Donc ça, c'est un parcours. Philippe de Normandie, médecin, neurochirurgien, qui lui, dans sa pratique et aussi dans le travail avec le vieillissement, s'intéresse aussi à ça. Et puis moi, qui suis qu'un modeste sociologue, donc les études scientifiques qualitatives ou quantitatives, on connaît aussi. Et c'est vrai que c'est deux éléments qui ne s'opposent pas, vous avez parfaitement raison, qui sont complémentaires. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était, un, sur les questions de vieillissement, de care, de pouvoir d'agir aussi.
Le care
Le care, c'est le prendre soin, et le prendre soin mutuel. C'est beaucoup revenu, d'ailleurs, dans le discours là, avec la période du confinement. C'est aussi cette notion de pouvoir d'agir. Comme disait Spinoza, hein, la joie, c'est dans le pouvoir d'agir. Il y a les passions tristes d'un côté, ah, c'est pas bien, la haine et tout ça, ou bien il y a au contraire se dire, je peux aussi jouer un rôle. Et on voit bien que beaucoup de gens ont envie d'essayer de jouer un rôle sur leur propre santé. Puis je travaille sur le vieillissement, je vois bien aussi qu'on n'a pas trouvé de système pour guérir d'être vieux. En revanche, on peut...
C'est pas une maladie d'être vieux.
C'est pas une maladie, bravo. Très bien, Ali. Mais qu'en revanche, on peut peut-être mieux vieillir. On peut moins avoir mal d'une certaine manière. Et donc, dans tout ça, il y a toutes ces démarches qui existent. Et on se dit, d'un côté, il y a des choses extrêmement positives, extrêmement intéressantes. Dans d'autres cas, c'est carrément du délire absolu et il faut faire hyper attention. Ça va jusqu'à des dérives sectaires. Ça, c'est heureusement que le préfet Gravel et la Miviludes sont là parce que c'est un enjeu. Et on voit bien que ça augmente, hein. Mais qu'il y a aussi des dérives en santé. La personne qui pense que elle va même abandonner ses traitements de chimio et qu'avec, de l'huile de pépins de raisin, tout va se régler. Mais elle n'est pas sous emprise d'une certaine manière. Elle le décide elle-même. Et donc, il y a aussi tout un travail d'explication autour de tout cela. Et donc, ça, on s'est dit, il y a des enjeux de démocratie sanitaire. Il y a des enjeux de démocratie républicaine. Et par ailleurs, il y a des enjeux de démocratie tout court.
Alors, je vais vous faire plaisir en citant Georges Fenech, l'ancien président de la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Il est très circonspect sur la création de votre agence. Je le cite dans l'Express. Ce domaine de l'évaluation des pratiques de soins non conventionnels ne peut en aucun cas relever d'une initiative privée, avec tous les risques de dérives et de conflits d'intérêts que cela comporte. Tout cela ressemble beaucoup à une opération de lobbying, voire à une forme d'entrisme. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Que d'abord, il y a un mot qu'on appelle la société civile. Je suis sociologue. Il se trouve que dans la société, il n'y a pas que le haut, il y a aussi le bas. Et que donc, si on méprise le bas, et ben, au bout d'un moment, il y a une incompréhension entre le bas et le haut. C'est un peu ce qu'on vit, ça s'appelle par exemple les gilets jaunes. Donc on peut traiter avec tout le mépris que l'on veut, mais quand il y a 44% de la population qui utilise, quand il y a 66%,
sondage, ouais,
quand il y a 66% des gens qui utilisent l'homéopathie, on peut dire ils sont idiots, ils n'ont rien compris, si on veut. Sauf que c'est quand même pas mal de respecter les gens et de discuter un peu avec eux. Donc là, l'État l'a pas fait, et donc on s'est dit, avec des gens qui n'ont pas d'intérêt particulier dans l'histoire, que ça intéresse, ils se sont dit, on va voir ce qui se passe, on va réfléchir, on va fédérer, avec des gens qui sont plus ou moins pour, plus ou moins contre. Il y a par exemple des élus, il y a une pharmacienne, Agnès Firmin-Lebaudeau, qui est carrément contre, dit non, c'est pas du tout intéressant, mais en revanche, elle voit bien que beaucoup de ses électeurs, et tout ça, donc elle se dit, il faut voir un petit peu ce qui se passe. Donc on est plutôt dans cette logique-là, de dire, écoutons la société. Ça veut pas dire que la société a raison. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes majoritaire, vous avez raison. Mais c'est pas parce que vous êtes majoritaire, vous avez tort non plus. C'est pas parce que vous n'êtes pas médecin que vous avez tort non plus. Donc c'est aussi l'idée de écoutons, discutons et essayons de trouver la voie du dialogue, ce qu'on fait là par exemple. Et c'est dans une société qui est un peu...
On va laisser dialoguer.
Qui manque de pacifique. C'est aussi discuter ensemble et on a le droit de ne pas être d'accord.
Pierre de Brémond-Dars.
Je suis ravi que vous parliez de la société, parce que la société, avec toute sa diversité, sa couleur, elle est dans mon cabinet de consultation tous les matins. Je travaille dans un centre de santé du coup municipal, dans une zone de la banlieue sud, pas très, voilà, un peu défavorisée. Et la société, elle a pas forcément besoin de pratiques de soins non complémentaires, elle a avant tout besoin d'autre chose. Je pense qu'on a autre chose à faire avec quelques millions d'euros que d'essayer de voir si jamais l'homéopathie, dont on sait depuis 200 ans que ça marche pas, est utile. On a besoin d'assistantes sociales, on a besoin d'infirmières auprès de nos vieux et d'aides-soignantes. On a besoin d'avoir un système de santé structuré et qui s'adapte. Et aujourd'hui, avec la crise de la démographie médicale, avec en plus la crise de la confiance médicale, le vrai conseil, c'est peut-être de faire moins et de pas proposer des choses, en effet, qui soient du domaine du magique ou du domaine un peu de l'alternatif, mais de se baser sur les données de la science et donc sur ce que dira l'HS, des pratiques qui seront évaluées par des études scientifiques. Et ensuite, pour les patients, redonner le pouvoir aux patients, c'est aussi nous, médecins soignants, leur laisser parler, donc donner du temps aux médecins pour qu'ils parlent, et donner aux patients des choses qui ne seront pas délivrées par un praticien. Donc c'est mieux marcher, mieux manger, c'est la base.
Docteur Adrien Chaboche.
Alors absolument, l'aspect qualitatif, c'est-à-dire d'amener quelque chose qui soit de qualité. Mais on ne peut pas opposer non plus un manque de moyens financiers, parce que c'est une réalité de notre système actuel, économique et politique, et du système de santé. Je vais reprendre un exemple hyper concret sur le terrain, effectivement, dans notre cabinet. Quand je vois qu'un patient va être sous somnifère, un traitement qui a des effets secondaires, qui a des effets au long terme, dont on va payer dans la société les effets sur la mémoire, sur le cerveau, 15 ans, 20 ans après, ça fait 10 ans qu'ils ne sont pas autonomes et qu'ils ont des troubles du sommeil. Et sans aucune magie, mais sur des choses qui sont basées sur des preuves, sur, oui, du rapport humain, mais oui aussi une technique, une pratique psychocorporelle, qui peut être, et on ne va pas faire aucune publicité, ça peut en être plusieurs, hypnose, sophro, méditation, et qui en quelques séances, et encore une fois sans aucune pensée magique, va se sevrer naturellement de ce somnifère, va retrouver une autonomie, va retrouver une qualité de vie, et on sait que les troubles du sommeil entraînent des polypathologies gravissimes. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas cet effort-là, justement, sur des moyens humains, humanistes, qui préservent l'autonomie et qui coûtent pas grand-chose, finalement.
Allez, on évoquera dans quelques instants les formations très hétérogènes autour des médecines complémentaires. Vous pouvez intervenir au 01 45 24 7000. Sachez que l'enregistrement de Par Jupiter aura bien lieu à Nancy, aujourd'hui, à 17h. April Marche interprétée Laisse tomber les filles.
Pardon, excusez-moi, ils sont un peu le chien mouillé, mon tapis. Le vôtre, ça va?
Grand bien vous fasse.
On a quand même l'air très con, non?
Vous pouvez respirer moins fort, j'ai l'impression d'être au salon de l'agriculture.
Dalai Lama, j'ai une crampe.
Sur France Inter.
Oh, faut vraiment être prêt à tout pour atteindre la plénitude.
11h-25, que pensez-vous des thérapies non conventionnelles, des médecines dites complémentaires? Intervenez au 01 45 24 7000 ou bien laissez-nous une note vocale.
Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Alors pour moi, les médecines alternatives et complémentaires sont essentielles. Elles sont de toute façon la base de la médecine d'aujourd'hui. C'est les premières médecines, donc elles ont accompagné des milliers de personnes. Et aujourd'hui, pour moi, elles sont vraiment une prévention dans le quotidien, un soutien au corps dans sa santé naturelle. Et je trouve dommage qu'on ne mette pas plus en avant, qu'on reste dans cette image de médecine un peu farfelue, ésotérique, si je peux le dire comme ça, alors qu'elles sont une vraie prévention de notre santé.
Docteur Pierre de Brémondard, je rappelle que vous êtes notamment membre du collectif FakeMed. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Stéphanie qui nous a laissé une note vocale?
J'ai envie de vous dire qu'elle a raison en partie, notamment sur le côté originel. L'utilisation de la nature, donc ce qu'on trouve dans la nature, c'est la base des médicaments qu'on utilise. Mais le problème, c'est que c'est pas fiable. à 100% et c'est pas fiable constant. Le principe actif de l'aspirine qu'on a utilisé pendant des années, c'est
le boulot.
Issu de l'écorce du boulot, tout à fait. Sauf que la façon dont vous le récoltez, l'heure où vous récoltez et là où c'est le boulot, vous n'allez pas avoir du coup le même dosage. Donc, on a réussi à extraire l'aspirine et à la synthétiser et ça nous permet aujourd'hui d'en donner pour pas mal de raisons et donc c'est la base mais la science a permis d'améliorer, de dépasser juste le côté plante pour avoir quelque chose de fiable et de constant.
Serge Guérin, je rappelle que vous êtes sociologue et président de l'Agence des médecines complémentaires alternatives sur le témoignage de Stéphanie.
Alors c'est intéressant parce qu'elle parle beaucoup d'elle. Il y a aussi du ressenti. Je veux dire, une personne n'est pas égale à une autre personne. Il y a un environnement social, culturel. Il y a des croyances. Tout ça, faut les prendre en compte. Et dans votre cabinet, par exemple, évidemment, il y a des publics qui peuvent être plus modestes, plus populaires que d'autres, et ainsi de suite, avec des croyances diverses. Et tout ça se prend en compte, s'écoute. Cette personne-là aussi, elle est dans la notion de prévention. C'est super important. Après tout, le meilleur système, c'est de pas aller voir le médecin parce qu'on se sent bien et que ça va bien. Donc c'est aussi, plus je peux faire attention avant, et plus il y a des démarches qui m'aident. Par exemple, quelque chose qui est complètement subjectif, qui s'appelle l'activité physique adaptée. Quand il y a 25 ans, Ciel Bleu lance ça, par exemple, en allant dans les maisons de retraite, en allant vers le monde du handicap. Il y a quand même plein de médecins qui ont dit « Mais ça va pas !»« Mais enfin, les vieux, ils vont quand même pas faire du sport en plus !»« Et puis les handicapés, mais pourquoi pas ?» Voilà, il y a ça. Et ils ont été traités par le plus grand des mépris. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent « Ah mais... » C'est quand même peut-être pas mal, ça fait du bien déjà à l'être humain. Encore une fois, le corps et l'âme et l'esprit et tout ça qui peuvent fonctionner ensemble. Et puis, dans certains éléments, c'est comme la nourriture et autres, la nutrition, tout ça. Tout ça me permet aussi de reprendre une partie du pouvoir sur tout ça. Mais évidemment, j'ai sacrément besoin aussi d'être accompagné, d'être orienté et d'être expliqué. Parce que je peux aussi faire des bêtises, ainsi de suite. Donc je crois que c'est, en effet, faut pas opposer, mais peut-être rendre les choses complémentaires.
Docteur Adrien Chaboch, certains auditeurs peuvent se dire, tiens, j'ai essayé l'hypnose pour arrêter de fumer, ça marche, et qui sont tentés de généraliser leur cas personnel. Il faut le rappeler, l'expérience seule ne peut pas dire si tel ou tel type de thérapie complémentaire marche ou pas.
Oui, c'est ça qui est très très compliqué. Qu'on doit justement reconfronter aussi, je vais être presque auto-contradictoire, je gère une équipe de 30 praticiens, on est vraiment sur les pratiques complémentaires, avec des médecins, Sauf qu'il faut bien se rappeler la place du médicament aussi. Oui. Pourquoi est-ce qu'on est dans une ère un petit peu anti-médicament, un petit peu, suite à des scandales, ça il y aurait des études sociologiques qui le décryptent et on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais il faut bien se rappeler quand même qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le premier neuroleptique qui est mis en place par des niqueurs, ça permet à des gens qui pouvaient que être asilés, de vivre en société. Et là, aujourd'hui, on est dans une attaque sur les médicaments qui touchent le cerveau, l'autonomie, etc. On ne se rend pas compte d'à quel point et à quelle vitesse on a progressé en moins d'un siècle, dans une ère, oui, certes, de la technicisation, qui a beaucoup donné de place aux médicaments. Alors, on se retrouve avec des gens qui ont besoin de retrouver un côté de ce qu'on va appeler une réhumanisation, de retrouver la relation avec le praticien. Et là, on parle d'effet placebo. C'est pas que l'effet placebo.
À ce sujet-là, nous avons Thomas au téléphone, qui nous appelle de Nantes. Bonjour Thomas.
Oui, bonjour.
Je crois que vous avez une question sur ce sujet-là.
Merci de prendre mon appel déjà.
Oui.
Oui, j'ai une question, alors la voici. Est-ce qu'au final, les médecines douces ne constituent pas un témoignage, celui de l'absence de prise en compte de la part psychologique et humaine de la personne? C'est-à-dire que le besoin d'être écouté sur d'autres plans que celui rationnel et purement logique de la médecine conventionnelle, c'est-à-dire d'être écouté, de se relier à soi. Qu'est-ce que la médecine met réellement en place pour évoluer en la matière, pour s'adapter aux évolutions de la société?
Docteur
Moi, je n'ai pas la médecine douce. Ma mère, qui est rhumatologue, a observé ça dans sa pratique, auprès de ses collègues. C'est-à-dire qu'il y avait un manque de prise en compte réellement de la personne dans sa dimension d'écoute.
Docteur Adrien Chaboch.
On est face à ce défi. On est face à ce défi qui va se cristalliser aussi dans comment se déroule par exemple la consultation de médecine générale. En moyenne en France c'est 15 minutes, 20 minutes c'est déjà beaucoup, parfois c'est 10 minutes. Pourquoi? Parce qu'on peut pas faire beaucoup plus, parce qu'il y a des contraintes innombrables qui font qu'on est réduit. Or, écouter quelqu'un, et il y a un psychanalyste barbu qui a fini sa vie à Londres, que je ne citerai
Freud,
pas, oui, quelque chose comme ça, qui a bien dit et qui a observé que 45 minutes, c'était bien. C'était bien pour avoir le temps de s'écouter. C'est pas que l'effet placebo, c'est pas que l'effet effectivement non spécifique. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, quelles que soient les pratiques, même si elles sont sérieuses, au-delà même de l'outil en lui-même, c'est de remettre l'humain.
Votre regard, Christian Gravel, je rappelle que vous êtes secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance, de la radicalisation et de la dérive sectaire. Vous auriez pu choisir un titre plus court. Allez-y, Christian
Gravel. Je suis navré, Charlie. On va retravailler à ça. Non, ce qui a été dit, évidemment, est profondément juste. On sait bien que, prenant l'exemple de situations complexes, précisément des personnes confrontées à des cancers, par exemple, on sait que la critique d'un manque d'écoute, d'un manque de disponibilité du corps médical, évidemment la confrontation avec la difficulté des effets secondaires liés à certains traitements, qui ont prouvé leur efficacité. Parfois, ces déficits-là incitent certains patients à vouloir, par peur ou par méfiance, aller voir ailleurs. Lorsqu'on s'inscrit dans la médecine complémentaire alternative qui semble être fiable, il n'y a aucun souci. Après, moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, ce sont les dérives thérapeutiques à caractère sectaire. Et là, il y a une exploitation, une mainmise, et donc dans ces cas-là, l'idée d'assujettir les patients en leur faisant croire que la vérité est ailleurs, et donc en leur vendant un certain nombre de médecines totalement alternative à ce qui relève du scientifique, avec des dangers qui peuvent être conséquents. Il y a un certain nombre d'affaires.
On va y revenir dans quelques
sûr,
instants.
Qui ont pu se traduire par des morts.
Avec donc, un individu revenir, oui. assez dangereux. Oui. Caroline Penaud, je rappelle que vous êtes journaliste, ça m'intéresse. J'aimerais qu'on s'intéresse aux formations qui sont très hétérogènes dans le domaine des médecines dites complémentaires. Aucune loi n'encadre l'ensemble de ces thérapies.
Non, c'est tout le problème. Il y en a très peu qui sont encadrés et il y a des formations hétérogènes, même dans une même spécialité. Par exemple, en sophrologie, on peut avoir des études qui vont durer 2 ans, je crois, et puis aussi on peut
et
mettre sa plaque.
Est reconnu par
l'État et on peut mettre sa plaque avec des formations très courtes. Je pense que pour l'hypnose, c'est un peu pareil. Il y a des formations très courtes. Donc, je pense qu'en tant que patient, c'est un peu compliqué. On ne sait pas exactement comment est formé le praticien qu'on a en face, et c'est un peu le souci. Il y a la DGCCRF, répression des fraudes, ouais. Qui avait fait des contrôles et qui avait vu qu'il y avait quand même un manquement beaucoup d'informations du patient. Alors, certes, c'était sur les tarifs, mais aussi un petit peu d'abus des termes diplômés, agréés, certifiés, des choses comme ça, qui montrent que voilà, on peut mettre un diplôme, on ne sait pas exactement ce qu'il vaut. Donc ça, c'est important de regarder à qui on a affaire.
Serge Guérin.
Oui, je crois vraiment la question de l'enseignement, elle est absolument majeure. C'est-à-dire qu'il y a des diplômes universitaires, il y a ce qu'on appelle les RNCP qui sont déclarés par le ministère du Travail.
C'est quoi les RNCP?
Registre national.
Oui.
Certification professionnelle. Voilà, et c'est ça qui est... Et sinon, on met sa plaque n'importe comment, et là, on est, je sais pas si on est dans la magie, mais en tout cas, on est au moins dans le charlatanisme. Et donc là, en effet, il faut être hyper attentif à ces questions-là. C'est-à-dire qu'un médecin, c'est un médecin. Il n'y a pas de débat, il a fait les études, ainsi de suite. Là, il y a des gens, alors, il y a certaines pratiques, l'acupuncture, par exemple, il faut être médecin pour pratiquer l'acupuncture. Et sinon, c'est l'exercice illégal de la médecine.
Docteur de Brémond-Dars, de FECMED.
Alors, sur la formation, il y a différentes choses. Il y a la formation à l'exercice de pratique de soins non conventionnels, où là, on n'est pas forcément d'accord, surtout s'il n'y a pas de preuve que la pratique de soins non conventionnels n'est pas adaptée. Et il y a la pratique de l'écoute du patient. Dans un cabinet de médecine générale aujourd'hui, mon rôle, c'est pas de dire aux gens, ne faites pas ça. C'est d'écouter les gens et d'être vigilant sur, justement, les dérives. Que quelqu'un puisse se sentir capable de me dire qu'il soit assez en confiance pour me dire, en fait, docteur, votre vaccin, je veux pas parce que. Ou, la chimiothérapie, je veux pas parce que. Parce que mon rôle après, c'est de reprendre les choses avec lui, de l'écouter et de lui dire « Ok, voilà vos peurs, qu'est-ce que je peux vous apporter comme réponse ?» Bon, j'ai pas la réponse, on va chercher ensemble. Et c'est la formation à ça qui est important. Donc c'est la connaissance, c'est la création de connaissances qui compte, et l'utilisation après, et la formation des médecins à l'écoute de leurs patients, pas à l'utilisation et à la promotion de pratiques qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité.
Allez, je vous propose d'écouter... Thierry Casasnovas, enfin un reportage autour de Thierry Casasnovas, gourou du manger cru, et qui a pu affirmer que les maladies n'existaient pas et que selon lui, les jus de fruits ou de légumes pouvaient guérir, par exemple, le cancer ou le sida. Écoutons un reportage de Solène Lehen, diffusé en octobre 2020 sur France Info.
Eux se considèrent plutôt comme des adeptes de la médecine alternative, médecine douce, médecine naturelle. Ils disent aussi médecine complémentaire. Et depuis l'apparition du Covid, ils ont réorienté, adapté leur discours. Parmi les promesses, les recettes de guérison, il y a celle de Thierry Casasnovas. Cela fait 10 ans que cet autodidacte réalise des vidéos sur YouTube dans lesquelles il prodigue ses conseils santé.
Coronavirus, si j'étais ministre de la Santé, moi ça serait réglé rapido. Bain froid et jeûne pour tout le monde. un petit peu de jus de carotte et vas-y que je t'envoie.
Bain froid, jeûne et jus de carotte pour éviter d'attraper le Covid. C'est d'ailleurs la même recette pour d'autres maladies. Thierry Casasnovas prône une alimentation tournée vers les jus de légumes, jus de fruits. Et ces derniers mois, c'est parfois parti dans des délires mystiques, raconte Camille Chesse, porte-parole du ministère de l'Intérieur qui s'exprime au nom de la Miviludes.
On a vu des situations où ces gourous, ces influenceurs revenaient sur des thématiques liées à la punition divine, avec un regain aussi de courant apocalyptique lié à la pandémie. On parlait beaucoup, par exemple, de l'imminence de la fin des temps. Donc le discours a profondément évolué du fait du Covid. Cela peut être, par exemple, des bains de lumière métatroniques avec des soins énergétiques, d'autres protections pratiquées par téléphone. Bref, tout un champ divers qui sont à la fois des arnaques, mais aussi qui jouent sur la fragilité des gens et sur les dérives sectaires.
Alors là, Christian Gravel, j'ai franchement pas envie de rire quand, par exemple, des malades du cancer arrêtent leur traitement pour boire des jus de fruits, de légumes préconisés par ce type de personnes.
Non, on est confronté au prototype du gourou thérapeutique extrêmement dangereux qui a fait évoluer d'ailleurs, comme bien d'autres, son discours en injectant une dimension complotiste à sa doctrine pour surfer sur cette vague-là. Précisément la vague des réseaux sociaux et de capter un nombre conséquent de victimes, puisque c'est bien le cas, qui malheureusement, parce que perdues, parce que ayant besoin de réponses simples à des problèmes complexes, ont un moment où envie d'y croire. Et effectivement, je pense qu'il n'y a pas besoin de passer un doctorat en médecine pour comprendre que un mixeur avec des jus de légumes ne fera strictement rien par rapport au Covid, au concert, et donc les conséquences peuvent être gravissimes.
Il est important de repérer ces dérives sectaires quand on sait, selon une étude publiée en 2020, que 85% des personnes atteintes d'un cancer ont recours à une ou plusieurs thérapies non conventionnelles. Ce qui est grave, hein, c'est quand ces patients qui souffrent de graves pathologies ne parlent pas à leur spécialistes du recours à ces thérapies non conventionnelles quand ils préfèrent des plantes ou autre chose à une chimiothérapie.
C'est normal, il y a une forme de désespérance, on peut le comprendre dans le cadre de certaines situations. C'est ce que j'évoquais à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de peur. Et puis, il y a envie de se raccrocher. Ouais. Il y a un besoin d'espoir. Et donc, c'est là où, encore une fois, ces acteurs, ces pseudo-thérapeutes.
Comment on repère ces charlatans? Donnez-nous des clés.
On a, écoutez, j'évoquais un discours simpliste. Vous avez passé un extrait de l'individu évoqué. Je ne vais pas lui faire de publicité. Je ne répéterai pas son nom. On se croirait confronté à un film comique presque. Et les discours simplistes, le discours de vérité, l'idée de rejeter tout ce qui relève du système. Et c'est la convergence qu'on a entre des mouvements à caractère sectaire et aujourd'hui des mouvements complotistes avec comme QAnon par exemple, qu'on retrouve dans des cortèges anti-vax intégristes. L'idée, c'est pas de critiquer telle ou telle technique, pourquoi pas. Je le rappelle, hein, en France, c'est un droit fondamental. Les libertés de conscience, les libertés thérapeutiques sont sacrées. Néanmoins, il y a une nécessité, effectivement, de veiller à faire prendre conscience, et c'est aussi le rôle de la Miviludes de contribuer à informer et à répondre aux interpellations de nos concitoyens sur tel ou tel sujet. Et notamment par rapport à des situations qui peuvent être graves lorsque des familles peuvent se retrouver en situation de rupture avec des situations qui peuvent se terminer par des drames.
Docteur Adrien Chaboch.
Donc ce qui peut nous aider très rapidement finalement à discerner quelque chose d'un praticien, ça va être le caractère clivant. C'est-à-dire que dès lors qu'on se retrouve dans de l'alternatif ou du perpendiculaire, moi j'appelle ça du perpendiculaire, parce que du coup on quitte le sillage de ce qui raisonnablement a été montré, prouvé, étudié, évalué. Bon, un exemple. Dans mes recherches, j'ai étudié justement la médecine ayurvédique. Serge a bien montré dans son rapport qu'il y a des pays dans lesquels les pratiques traditionnelles sont intégrées dans le système de santé. Par exemple, l'Inde. Mais quand je discute avec des médecins indiens et des personnes qui vivent là-bas, elles me disent « Mais quand on a un cancer, on fait une chimio, on ne va pas aller se soigner ?» que avec les plantes. Donc on est dans l'intégratif. Et le problème, c'est aussi un problème de désignation de sémantique. Quand on dit médecine complémentaire et alternative, on classe dans une même case deux choses, qui est de l'ordre de la recherche et ce qui est de l'ordre du terrain. Et sur le terrain, ce qui est raisonnable, c'est ce qui est complémentaire.
Et à 10h51, je vais m'administrer un gros pan sur le bec, parce que j'ai dit tout à l'heure que l'aspirine était issue du bouleau. ce qui est une bêtise absolue. Des auditeurs nous l'ont fait remarquer, ils ont bien raison, nos auditeurs, ils sont très intelligents. Évidemment, l'aspirine est issue du saule, évidemment. Vous avez vu, hein, mais c'était juste pour tester nos auditeurs. Hein. J'ai fait exprès, en fait. Le mec n'assume pas du tout. En tout cas, dans quelques instants, nous passerons quelques disciplines au crible de la science avec Caroline Penaud de Ça m'intéresse. En attendant, on écoute Noël Gallagher.
When the morning comes, you're gonna meet your maker. Good luck in the afterlife. I hear the morning sun doesn't cast no shadow. You chose to drift away, but look at you.
Gallagher, interprété We're On Our Way Now. Je sais vous moquer de mon anglais, tous autour de la table.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
10h54, on s'intéresse encore quelques minutes aux médecines complémentaires avec Ça m'intéresse. Alors Caroline Penaud, vous avez mis au banc d'essai quelques disciplines, alors l'ostéopathie, la phytothérapie, l'hypnose, l'acupuncture.
Alors en fait, ce qui est, il y a des études sérieuses sur toutes ces disciplines et qui fonctionnent plus ou moins selon les indications. En fait, c'est pas des remèdes universels.
Voilà, c'est pas des panacées.
Ce qui est intéressant, c'est de montrer que par indication, ça va plus ou moins marcher. Par exemple, l'ostéopathie, ça va marcher bien sur la lombalgie, mais à peu près à équivalence avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'acupuncture, ça marche contre certaines douleurs, mais sur la dépendance au tabac, on n'est pas trop sûr. Et puis c'est à peu près pareil que ce soit de la fausse ou de la vraie acupuncture. L'hypnose, ça marche notamment sur le ressenti de la douleur. Voilà, la phytothérapie, ça dépend parce qu'il y a une vingtaine de plantes où c'est à peu près prouvé, mais il faut faire attention aux interactions médicamenteuses et pas s'automédiquer.
La méditation de pleine conscience, il y a des preuves assez solides sur l'anxiété, le trouble anxieux par exemple, ou sur certaines formes de dépression. Voilà, d'ailleurs Christophe André à l'hôpital Sainte-Anne pendant longtemps a utilisé la méditation de pleine conscience, mais bien souvent en complément avec des traitements médicamenteux. Tiens, sur l'hypnose médicale, quelles sont les preuves scientifiques avérées? On l'a évoqué avec Caroline Penaud, Adrien Chaboch.
Alors, avéré, ça va
dépendre. Vous êtes hypnothérapeute également.
Oui, aussi. Et je travaille en centre de traitement de la douleur. Alors, avéré, c'est compliqué parce qu'il faut d'abord caractériser le niveau de preuve.
Exactement.
Alors que dans les rapports les plus actuellement conduits, poussés, reconnus gouvernementalement, c'est la fin de l'émission, il y a le rapport de l'INSERM, il y a des rapports de l'Académie de médecine qui ont effectivement amené des preuves sur quoi? Alors, sur la douleur chronique et sur la gestion de la douleur aiguë, sur les troubles dépressifs, sur les troubles aussi intestinaux, les troubles qu'on appelle fonctionnels intestinaux, c'est-à-dire les douleurs de ventre, bon, et puis sur la prise en charge du stress, de l'anxiété. Bon. Mais on est encore à des niveaux de preuve qui se veulent et qui se doivent d'être encore confortés, conformés, mais aussi en se demandant mais comment est-ce qu'on peut montrer certains effets dont on sent bien et dont on présuppose bien dans les études scientifiques, mais dont on n'a pas encore très bien les outils d'évaluation.
Tiens, il nous reste une poignée de secondes. Un mot de conclusion autour de la table. Christian Gravel, président de la Mivilude.
Non, je voudrais dire que on est confronté à un phénomène social lourd. Qui relève aussi d'un enjeu démocratique. Ça a été évoqué en début de réunion, puisque derrière, on voit bien que c'est la remise en cause de notre modèle de société, notre système basé sur la raison. Et donc, je pense que ça mériterait bien 2-3 émissions supplémentaires pour aller creuser ce terrain-là. Et pour finir, je voudrais juste dire, en vous remerciant de donner la parole, que vraiment l'équipe de la Mivilude est à l'écoute, à disposition de tous ceux qui ont des questions, ou qui, a fortiori, sont confrontés à des problèmes.
Comment on vous contacte ?
dérive-secte.gouv.fr dérive-secte au pluriel .gouv.fr où vous tapez Mivilude sur un moteur de recherche, vous le retrouvez et on sera vraiment à votre disposition.
Docteur Pierre de Brémond-Dars.
Je pense que un des défis qu'a soulevé la pandémie, c'est qu'il faut réenchanter la science et la science de qualité. À partir du moment où on a des preuves que ça fonctionne, on quitte le domaine de la paramédecine, des thérapies, des thérapeutes, mais on rentre dans la science avec des balances entre le bénéfice et le risque. Et il faut réenchanter et réapprendre à faire de la bonne science.
Serge Guérin qui va essayer de faire court.
Le soin, le care, c'est aussi s'écouter et se respecter dignement les uns les autres. Et déjà rien qu'avec ça, je ne dis pas qu'on soigne, mais en tout cas on peut se faire du bien.
Docteur Adrien Chaboche.
Et donc de laisser place à l'humain. Et dans l'humain, il faut le respecter, il faut le protéger. Et dans notre système, il y a toujours des systèmes aussi qui doivent protéger les citoyens. Donc ça doit passer aussi par des lois.
Merci beaucoup Dr Pierre de Brémond-Dars, Dr Adrien Chaboche, Christian Gravel, Serge Guérin. Et merci Caroline Penaud. On peut lire avec beaucoup de profit le tout nouveau numéro de Ça m'intéresse, disponible en kiosque demain. Grand bien vous fasse, loisir.